Nous allons commencer notre table ronde, notre débat, avec le Père Hyacinthe également. Le Père Hyacinthe destinait à dû nous quitter, ainsi que quelques autres participants du colloque. Et donc c'est M. Jean-François Colosimo, très connu dans le monde orthodoxe, qui a eu la gentillesse d'accepter d'animer ce débat, avec la participation mademoiselle Sophie Dravinel du journal Le Figaro, de M. Jean-Luc Mouton du journal Réforme protestant. Voilà, et je donne la parole à M. Colosimo.
Merci, Père. Je voudrais dire d'abord qu'un livre publié par les pères dominicains qui fait l'objet d'un colloque chez les pères jésuites, c'est déjà un événement œcuménique en quelque façon. Et donc nous sommes très heureux d'être au Centre Sèvres avec évidemment les éditions du CERF autour de ce livre traduit enfin en français, qui présente la doctrine sociale de l'Église orthodoxe de Russie, texte qu'il faut bien considérer comme un des écrits les plus importants donnés conciliairement par l'Église orthodoxe depuis la chute du mur de Berlin, et pas seulement, probablement un des textes importants qui aura marqué le XXe siècle. Alors, évidemment, c'est surprenant en quelque façon, parce qu'on avait toujours une image de l'orthodoxie qui est celle d'une église, de l'or, de l'encens, de l'icône, de la spiritualité, de la liturgie, une église intemporelle, mais d'une église dont les préoccupations sociales sembleraient quelque peu distantes. Donc, l'enjeu est important, puisque c'est à une connaissance réelle de l'orthodoxie qu'invite ce texte, non pas d'une orthodoxie imaginaire, idéalisée ou diabolisée, mais de la vie d'une église qui a donné plus de martyrs en quelques 20-30 ans que toutes les églises chrétiennes réunies au cours de 20 siècles d'histoire. Donc, l'enjeu est réellement important, et en même temps, ce n'est pas un enjeu que l'Église de Russie vit toute seule. C'est un enjeu qui se joue pour l'Église de Russie avec les chrétiens et les christianismes d'Europe, dans l'horizon de la sécularisation, dans l'horizon de la perte des valeurs, dans l'horizon de toutes les questions que l'on peut se poser sur une certaine atomisation de la société, une certaine décomposition aussi du sens de la vie. Et donc, ce texte, il ne veut pas vivre seul dans les frontières de la Fédération de Russie, mais c'était en quelque sorte son destin de sortir pour venir aussi, non seulement alimenter le débat, mais certainement aussi se confronter à d'autres vues, à d'autres expériences vécues par d'autres églises. Alors, je voudrais saluer la présence de plusieurs évêques, l'évêque de Saint-Denis, l'évêque de Cayenne, l'évêque de Besançon, de l'évêque Innocent de Kerzonnèse, de notre ami Jean de Boyu, ancien secrétaire d'État, et d'autres encore, de gens que je ne vois pas, vous ne voudrez pas oublier. On est très heureux qu'il y ait ici des journalistes éminents, Sophie Dravinel du Figaro, on l'a déjà dit, Jean-Luc Mouton de Réforme, le père Calvez, qui est enseignant ici, mais qui a eu quand même en main les destins de la principale revue, d'une des principales revues intellectuelles de France, les études. Et Monseigneur Kirill de Smolensk et Monseigneur Roland Minrat vont répondre aux questions des journalistes d'abord, au vote ensuite, avec une question au fond assez simple. Y a-t-il, oui ou non, des questions qui se posent à nous tous chrétiens, quelle que soit notre confession, qui se posent à nous tous de manière générale? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des questions auxquelles nous pouvons répondre ensemble? et de quelle manière pouvons-nous échanger sur nos expériences de manière à ce que notre réponse aux défis du monde ne soit pas justement une réponse mondaine, simplement, mais une réponse aussi alimentée par l'esprit de l'Évangile qui nous convoque à un témoignage d'unité. Voilà. Donc je passe la parole à Sophie Dravinec qui va avoir des questions extrêmement pertinentes, j'en suis sûr.
Déjà, je voulais vous remercier pour ce texte parce que pour un journaliste, je trouve qu'il est délicieux parce qu'il est indemne de toute langue de bois. Et j'avais une question à vous poser au sujet de l'objection de conscience. Parce que votre texte va assez loin sur la possibilité donnée aux orthodoxes de ne pas obéir aux, disons, préceptes de l'État à partir du moment où ils pourraient nuire à l'âme. Voilà. Donc cette question-là, est-ce que vous avez voulu publier un texte spécifique sur ce sujet? Est-ce qu'il y a eu des réactions en Russie après la publication de Volyn? Et j'avais une question complémentaire pour Mgr Minhat au sujet de l'objection de conscience chez les catholiques, et notamment les propos qui ont été tenus récemment par Benoît XVI sur la question des pharmaciens. Voilà.
Sur la question
des pharmaciens et la possibilité qu'il leur a donnée, quand même conseillé de...
Voilà. Le droit, en clair, le droit pour un pharmacien de ne pas donner des prescriptions qui considéraient contraires à ses principes. Exemple typique, la pilule abortive.
C'est une désobéissance civile.
Hein? Monseigneur Kirill.
Это я вам дам, вы будете по-французски говорить, да? Тема гражданского неповиновения была очень сильно подхвачена в России прессой. И единственная реакция, которую мы получили от властей, была касалась именно этого пункта.
Le sujet de le thème de l'insoumission.
Ça marche.
Le thème de l'insoumission civique a suscité en Russie des échos et des réactions très fortes dans la presse, et c'est sans doute le seul principe de la doctrine sociale qui ait suscité des réactions de la part des autorités.
Вообще должен сказать, что мы готовили эту доктрину в очень такой конфиденциальной обстановке.
C'est dans une ambiance de secret que nous avons élaboré et rédigé la doctrine.
Для меня даже было странно, что никакой утечки не было за все время работы.
J'étais le premier étonné de constater que pendant tout le temps qu'a duré ce travail, il n'y a eu aucune fuite.
И мы не хотели этой утечки, потому что мы понимали, что на нас могут оказываться разные давления.
Et nous ne voulions pas qu'il y ait de fuite, car nous étions conscients du fait que cela aurait pu entraîner des tentatives de pression sur nous.
И поэтому общество, включая власть, познакомились только тогда, когда текст был издан и когда он был принят.
Aussi l'opinion, la société, y compris les autorités, n'ont eu connaissance du texte qu'une fois qu'il a été approuvé et publié.
Et мы получили немедленную реакцию со стороны властей.
Et les autorités ont réagi sans tarder.
Это был 2000 год.
Nous étions en 2000.
Непростое время в нашей самой, что ни на есть, последней истории.
Et c'était une année difficile dans cette époque difficile.
И один очень высоко поставленный человек в Кремле пригласил меня к себе на разговор.
Et j'ai été invité pour m'entretenir avec un haut fonctionnaire de l'administration du Kremlin.
Я ему сказал, может, в ресторан вместе пойдем.
Je lui ai proposé d'aller déjeuner.
Он говорит, нет. Ко мне придите.
Il m'a dit, non, ce sera dans mon bureau.
Я почувствовал, что разговор будет серьезным.
Et j'ai senti que l'entretien qui m'attendait ne serait pas facile.
И не ошибся.
Et je m'étais pas trompé.
Этот господин встретил меня с такими сведенными бровями, с очень строгим выражением лица.
Ce citoyen avait une expression plus que crispée en m'accueillant.
И говорит, вы отдаете себе отчет в том, что вы сделали?
Êtes-vous conscient de ce que vous venez de faire, m'a-t-il demandé?
Вы же даете теперь богословскую, легальную основу для оппозиции.
Vous venez de légitimer théologiquement l'existence de l'opposition.
Теперь оппозиция будет призывать народ к неповиновению.
Et ce sera au tour de l'opposition d'appeler les citoyens à la à l'insoumission
civique. И это в такое трудное время для России.
Et ceci alors que le pays se trouve dans une situation plus que difficile.
Я ему сказал, у нас не было таких намерений.
Et je lui ai répondu, mais nous n'avions pas du tout ce genre d'intention.
И вообще мы ничего нового не сказали.
Et nous n'avons rien inventé de nouveau.
И рассказал этому чиновнику о том, что когда христиане во время первых гонений отказывались принести жертву перед статуей императора или воскурить фимиам, то их за это в тюрьму отправляли.
И я напомнил этому чиновнику, что в эпоху первых мартиров, когда христиане отказывались делать жертвы перед статуей императора, Eh bien, ils allaient en prison.
Это был акт гражданского неповиновения.
Et c'était un acte d'insoumission civique.
Потому что культ императора был обязателен для всех.
Puisque le culte de l'empereur était une religion d'État, une
religion
officielle.
Это был культ, который соединял всю империю с множеством религий и национальностей.
Le culte de l'empereur était le ciment d'un empire multiconfessionnel pluriethnique.
Христиане не могли принять этого культа.
Les chrétiens ne pouvaient l'accepter.
И отказ принести жертву – это был акт гражданского неповиновения.
И refus de faire un sacrifice devant la statue de l'empereur était un acte d'insoumission civique par excellence.
Я сказал, что если вы нас будете принуждать не верить в Бога,
j'ai ajouté que si vous essayez de nous forcer à abandonner notre foi en Dieu,
или поддерживать законы, которые будут идти против нашей христианской совести,
ou d'exprimer notre soutien à des lois qui contreviendraient notre conscience,
мы оставляем за собой право гражданского неповиновения.
Nous réservons le droit de la soumission civique.
Чиновник успокоился.
Le haut fonctionnaire s'est calmé.
И все встало на свои места.
Et les choses sont revenues à leur place.
Je remercie Monseigneur Kirill de cette précision. Il le raconte avec beaucoup d'humour, mais on se rend compte aussi des réalités, n'est-ce pas, de la vie russe. Et voilà que parfois on nous dépeint dans la presse une église qui marche main dans la main avec le pouvoir, mais il semble que la réalité soit un peu plus compliquée, n'est-ce pas? Monseigneur Minrat, alors est-ce qu'il faut que les pharmaciens désobéissent?
Avant de répondre à cette question tout à fait spécifique, je dirais, dans notre vocabulaire, l'expression insoumission civique n'existe pratiquement pas. Nous parlons d'objection de conscience. Pourquoi? Question d'anthropologie, ce qu'on a dit tout à l'heure. La conscience, c'est le lieu où la liberté de la personne se cristallise, c'est le lieu où se prennent les décisions, les actes humains. On ne peut forcer personne à agir contre sa conscience. D'après notre vision de l'anthropologie, toute loi morale ne devient loi pour moi que si je l'intègre, que si je l'assume, que si dans ma conscience, elle est bonne pour moi. Faire quelque chose contre sa conscience, c'est détruire l'humanité de l'homme. Donc c'est quelque chose d'important. Donc, objection de conscience, dans quelles circonstances? Alors il y a deux circonstances possibles. Il y a des lois qui sont prescriptives et il y a des lois permissives. Les lois prescriptives vous obligent à faire telle chose. Les lois permissives vous laissent faire. Alors, dans le domaine des lois permissives, il n'y a pas de problème de conflit avec l'autorité publique dans la mesure où vous vous abstenez de faire quelque chose qui en soi est mal, mais que le droit ne punit pas. C'est clair. Dans le cas d'une loi prescriptive, c'est là que joue l'objection de conscience. Par exemple, si vous êtes médecin, si vous refusez de pratiquer l'avortement, vous devez pouvoir disposer du droit à l'objection de conscience. Ce n'est pas facile dans tous les hôpitaux actuellement. Mais obliger quelqu'un dans l'exercice de sa profession à faire un acte qui va contre sa conscience, selon nous, n'est pas correct en droit naturel, en loi naturelle. et par conséquent, il y a possibilité, il doit y avoir possibilité de dire non, pour moi, ce n'est pas possible. Alors, vous n'avez pas cité là l'histoire du cas des pharmaciens, bon, auquel on aurait dit ben, ne vendez pas des produits qui, selon la morale catholique, ne conduisent pas à un comportement éthique responsable. Alors, on peut le dire, mais il faut faire attention à ne jamais mettre toutes les personnes sous des catégories. Il y a la catégorie des politiques, la catégorie des pharmaciens, la catégorie de ceci. Il faut que eux aussi fassent jouer à leur niveau, leur conscience. Et on ne peut pas afficher, étiqueter, voilà, tous les pharmaciens qui vendront tel produit sont exclus de l'Église, tous les politiques qui ne voteront pas comme ça sont exclus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que là, il y a une interférence entre l'institution qui parle en termes de catégorie et la notion de personne qui doit être responsable au niveau de son activité professionnelle.
Merci. Je suis persuadé qu'on va y revenir. Je crois que par-delà les problèmes de principe, de loi, etc., il y a la question de la manière dont les églises, au moins en Europe de l'Ouest, aujourd'hui, considèrent qu'elles sont devenues parfois inaudibles et essaient en quelque sorte de réinvestir le champ public, n'est-ce pas ? Et c'est certainement encore un autre problème que de prescrire les consciences, que de dicter en quelque sorte le comportement des gens. Il y a aussi ce problème de la présence chrétienne, de la voix chrétienne dans le secteur public. Justement, Jean-Luc Mouton a certainement des choses à dire là-dessus.
J'ai des plats.
Nous dissertons tous les vendredis matins sur Radio Notre-Dame, et chaque fois, il ne manque pas d'exprimer, je dirais, ce que le protestantisme a aussi de singulier et de précieux dans sa relation à la société.
D'accord, mais est-ce qu'il faut continuer sur le débat sur la désobéissance civile, ou est-ce qu'on part ?
On peut partir sur autre chose dès lors que ce sera... Bon, dès lors qu'on est sur les rapports avec les sociétés.
On reviendra là-dessus, sur la désobéissance
civile. Mais c'est comme tu veux.
Donc moi j'avais une question à la fois de journalistes, de Français et de Français protestants. Pour nous, pour beaucoup de Français, et dans l'histoire du protestantisme, le protestantisme était au cœur de ce combat, de la séparation entre l'Église et l'État. Donc ce qu'on appelle en France la laïcité, mais il y a différents modèles de séparation de l'Église et de l'État. L'impression que j'ai, c'est qu'en Russie, il n'y a pas une réelle séparation entre... Enfin, c'est une impression, hein, je pose la question. Quelle sorte de relation vous avez avec l'État ? Est-ce que l'identité de la nation russe est liée à l'Église russe ? Est-ce que ça ne pose pas de problème ? Est-ce que ce n'est pas un problème que tous les citoyens, ceux qui ne sont pas russes, ceux qui sont orthodoxes, doivent passer par l'histoire de l'orthodoxie ? Et les minorités religieuses, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes, baptistes et autres, comment elles peuvent se situer dans un État où il y a un lien aussi fort entre l'institution religieuse et l'institution politique. Donc comment, chez vous en Russie, on opère cette séparation ? Est-ce que vous pensez que la séparation est indispensable ? Et comment vous pensez l'opérer à l'avenir ?
Et Sophie de Ravinel veut renchérir.
Oui, juste ajouter aussi une question pour Monseigneur Minerat, suite de la tienne, parce que nos amis présentent le cas de la France à propos de la séparation Église-État de manière très négative, puisqu'il parle de séparation radicale qui trouve ses racines dans la Révolution française, donc lutte anticléricale, voire anti-chrétienne, et je me demandais s'il y avait une manière plus positive de considérer la séparation de l'Église et de l'État en France.
Avant que Mgr Minerat ne donne une version positive de la laïcité, on va demander à Mgr Kirill de donner une version positive des relations entre l'Église et l'État en Russie.
Я не знаю, что является причиной создания этого мифа о каком-то особо тесном взаимодействии русской церкви с государством.
Не знаю, je ne vois pas quelles sont les racines de ce mythe quant à une interaction tout à fait trop étroite entre l'Église et l'État en Russie.
Но я должен констатировать, что это миф.
Mais ce n'est qu'un mythe, rien de plus.
И просто вам дам некоторые примеры.
Et je peux vous en donner quelques exemples.
Того, что мы находимся сейчас в очень ответственной и сложной фазе диалога между церковью и государством.
Nous en sommes actuellement à une étape extrêmement délicate et difficile du dialogue entre l'Église et l'État.
С одной стороны, во-первых, конституционно Россия светское государство.
Конституционно parlant, la Russie est un État laïque.
Которое в точности повторяет французский опыт.
Qui s'en tient de près à l'expérience française.
Мы считаем, что это неправильно.
Et nous ne sommes pas d'accord avec ceci.
И мы спрашиваем наших политиков, а почему французскую модель вы повторяете?
Et nous posons la question à nos interlocuteurs de l'administration, dans l'autorité politique, pourquoi suivez-vous aveuglément le précédent exemple français?
А почему не немецкую?
Et pourquoi pas l'exemple allemand?
А почему не английскую?
Ou l'anglais?
А почему не скандинавскую?
Почему
французскую? Мы знаем ответ почему. Потому что большевики после революции с точностью попытались скопировать французский опыт. Они приняли закон об отделении церкви от государства, который являлся вашим законом. Они лишили все религиозные организации права юридического лица. Они изгнали всякое упоминание о религии из школы.
Toute mention de la religion a été éradiquée dans le système scolaire.
Но сделали это страшнее, чем это делали во Франции.
Mais tout ceci a été fait d'une manière bien plus terrible et cruelle que cela ne s'est produit en France.
Здесь тоже лилась кровь.
En France, bien sûr, il y a eu des martyrs et le sang a été versé.
Но сравнить нельзя с тем, что произошло в России.
Mais comment le comparer avec ce qui s'est produit en Russie?
И 70 лет мы существовали вот в такой жесткой системе отделения церкви от государства.
Pendant plus de 70 ans, nous avons dû survivre dans ce cadre très rigide de séparation de l'Église et de l'État.
Аналога которого не было в мире.
Et c'était un phénomène sans précédent dans l'histoire.
После крушения Советского Союза решили написать Конституцию.
Et lorsqu'après l'effondrement du régime soviétique, il a fallu rédiger une nouvelle constitution.
Я хорошо знал всех этих авторов Конституции.
Et je connaissais assez bien le groupe d'auteurs, de rédacteurs de ce nouveau projet de constitution.
И авторов нового закона о религиях.
Ainsi que les auteurs de la nouvelle loi sur la religion.
Я работал с ними в одной рабочей группе.
J'ai fait partie du groupe de travail.
Вы знаете, у православных священников сильные голоса, потому что мы не используем микрофоны в храме.
Vous savez que le clergé orthodoxe a une voix souvent bien posée, puisque nous n'avons pas recours à la sono dans nos églises.
Я не мог их перекричать.
Eh bien, je n'étais pas en état de me faire entendre.
Они не принимали никаких аргументов.
Ils ne voulaient rien comprendre et n'acceptaient aucun de mes arguments.
Потому что нашу демократическую конституцию писали вчерашние марксистские юристы и философы.
Puisque la nouvelle constitution de la Russie démocratique a été rédigée par des gens qui hier encore étaient des philosophes marxistes.
И ничего нового они написать не могли.
Et ils ne pouvaient rien produire de nouveau.
У них были советники из Соединенных Штатов Америки. С нашей точки зрения, не самые лучшие в вопросе отделения церкви от государства. И получилось то, что получилось. И сегодня, когда мы ставим вопрос о том, что нужно церкви иметь больше пространства в общественной жизни.
Et lorsque nous disons aujourd'hui que l'Église doit disposer de plus d'espace dans la vie de la société,
нас останавливают и говорят, это нельзя по Конституции, это нельзя по закону.
On nous dit non, impossible, c'est impossible en vertu de la Constitution.
Чего,
et du texte de loi.
Чего мы до сих пор не имеем в России?
Une chose qui nous manque jusqu'à présent en Russie.
В секулярной Франции есть капелланы в армии?
Est-ce qu'il y a des aumôniers dans les unités de l'armée française,
В России, где церковь сращена с государством, это невозможно.
Où l'église paraît-il est accolée à l'État, cela est impossible.
В России невозможно преподавание религиозных дисциплин в школах.
Il est inconcevable en Russie d'enseigner les matières religieuses dans les écoles.
В России невозможно иметь тюремных капелланов.
Il est impossible d'avoir des aumôniers dans les prisons russes.
Огромная проблема создать детский дом церковный.
Mettre en place, installer un orphelinat orthodoxe est chose quasi impossible.
Потому что власти говорят, как это отдавать сирот на воспитание в церкви.
Puisque les autorités nous disent comment pouvons-nous confier des orphelins.
Мы в светском государстве.
Par des religieux.
За эти годы очень многое, конечно, произошло.
Bien des choses ont changé ces dernières décennies.
Самое важное, что сегодня произошло, сегодня большая часть народа поддерживает церковь.
Mais l'essentiel est que la majorité de la population soutient l'Église.
И никакая власть не может с этим не считаться.
Et aucun pouvoir n'est à même de l'ignorer.
Сегодня строятся тысячи храмов.
Des milliers et des milliers d'églises sont actuellement en chantier.
Не потому, что власть приказывает.
Et ce n'est pas parce que les autorités l'ont
Не потому, что сверху деньги дают. Никто не дает
денег.
И никто не приказывает. Но потому что снизу идет сильное давление
людей.
Когда Папа Римский принимает кого-нибудь из иностранных президентов, весь мир нормально к этому относится.
Lorsque le pape de Rome donne audience à un chef d'État occidental, cela n'étonne personne.
Когда патриарх фотографируется с Путиным, все говорят сращивание церкви и государства.
Lorsque le patriarche se fait photographier voisinant avec Poutine, la réaction immédiate est fusion de l'Église et de l'État.
Пользуясь случаем, я хочу сказать, что это миф.
C'est un mythe.
Мы в пути.
Nous sommes en chemin.
И нам надо еще большой путь пройти,
чтобы
церковь заняла то положение в российском обществе, которое абсолютное большинство народа желает. Но когда мы об этом размышляем, мы сами себя спрашиваем, а какое это место?
Nous commençons à nous poser nous-mêmes la question comment définir ce rôle et cette place.
Чего мы не хотим ни при каких обстоятельствах.
Quels sont les paramètres que dont nous ne voulons pas, quelles que soient les
Хотя некоторые политики нас к этому призывают.
Bien que certains hommes politiques nous appellent à accepter ces paramètres.
Мы не хотим стать государственной церковью.
Nous ne voulons en aucun cas devenir une religion officielle.
Мы не хотим находиться в таких отношениях с властью, чтобы потерять свою свободу.
Nous ne voulons pas que nos relations avec le pouvoir politique soient telles que notre liberté s'en trouve aliénée.
Сегодня у нас многого нет, но мы свободны.
Il y a bien des choses dont nous manquons, mais nous sommes libres.
И главная привилегия, которой мы очень дорожим.
Et l'un des privilèges qui nous est le plus cher,
мы смиренно надеемся на то,
c'est avec humilité que nous espérons,
что являемся сегодня
que
голосом совести.
Nous sommes aujourd'hui la voix de la conscience de la nation.
И в первую очередь те, кто лишен власти.
Et en premier lieu de ceux qui n'ont pas, qui ne détiennent pas la moindre parcelle de
pouvoir. И те, кто лишен денег.
De ceux qui n'ont pas d'argent.
И те, кто слаб.
Des faibles.
Потому что в первую очередь это наша задача.
Puisque tel est notre objectif premier est d'être leur porte-voix à eux.
Monseigneur, nous avons écouté Monseigneur Kirill, ça a été très précieux, des précisions très précieuses, puisque ne serait-ce que le fait d'apprendre. Voilà, il n'y a pas d'aumônier militaire en Russie, n'est-ce pas? Donc, pour une nation, cinq nations en armes, ça fait un peu désordre, n'est-ce pas? Mais, Monseigneur Minrad, maintenant, est-ce que vous avez une expérience positive de la laïcité à nous?
J'ai visité la prison de Dijon il y a trois semaines. J'ai passé la matinée, tantôt chez les messieurs, tantôt chez les dames, et ça, ça
ça nous arrive à tous. Bien. Alors, pour ce qui est de la loi de séparation de 1905, vous avez bien fait de rappeler qu'elle a servi de modèle, et c'est vrai, en 1918, à la loi des soviets, qui l'a encore radicalisée, en reprenant trois éléments, privation de propriété, privation de reconnaissance juridique et exclusion de la religion de l'école. Alors, en France, avant 1905, il y avait eu pendant une vingtaine d'années les lois laïques, les lois laïques qui s'en sont prises à l'école et aux congrégations religieuses. Et l'achèvement du processus, pour ainsi dire, c'était de mettre fin au système des cultes reconnus, qui était le système de Bonaparte, et qui a pris fin en 1905. Alors, on peut distinguer, en effet, deux choses. L'idéologie qui a présidé à la séparation et ce que le régime de la séparation est devenu par la suite. L'idéologie, quand vous lisez les ouvrages qui concernent la manière dont la loi a été mise en œuvre et tout l'environnement, non seulement anticlérical, mais anti-chrétien, c'était terrible. On est allé dans les couvents sortir des pauvres moniales par la force de l'armée pour les jeter dans la rue. C'est incroyable, ça nous paraît des comportements. Bon, c'était d'une violence inouïe. Alors, cette idéologie laïque-là, elle perdure quelque part dans l'esprit d'un certain nombre de nos compatriotes, c'est vrai, qui en sont encore à vouloir éliminer le phénomène religieux de la société, qui ne soit surtout pas visible, et de le réduire au domaine privé. Ça existe encore dans l'esprit de certains. Mais cette attitude est franchement obsolète. Obsolète, parce qu'aujourd'hui, les institutions religieuses ne représentent plus une menace pour la République, et elles collaborent au contraire au bien de l'ensemble du pays et ne s'inscrivent pas du tout dans une opposition frontale aux institutions de la République. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, le climat a changé assez radicalement, notamment parce qu'on a vu que tous ces catholiques, ils ont fait leur vie comme tout le monde pour la défense de la nation. Et il y a eu, notamment grâce au travail du Conseil d'État, des aménagements constants dans le sens du bon sens d'un certain nombre de lois. Au début, lors de la séparation, si on avait appliqué la loi, on aurait dû demander l'autorisation au maire pour chaque messe dominicale dans chaque commune. Est-ce qu'on peut ouvrir l'église pour aller célébrer une messe ce jour-là? Bon, tout ça, c'est des choses tellement extrêmes que petit à petit, ça a été revu dans l'interprétation officielle du Conseil d'État et il y a eu aménagement et apaisement. Un des apaisements les plus importants, en tout cas pour les catholiques, c'est les édifices cultuels. Puisque les catholiques n'ont pas accepté en première instance la loi de séparation, il y avait un vide juridique. Normalement, l'Église catholique devenait propriétaire des lieux de culte. Et comme ils ont refusé la loi, il y a eu une nouvelle loi en 1907 pour dire que les églises paroissiales sont affectées aux communes et les cathédrales à l'État. Et par conséquent, c'est quand même un aménagement considérable. Il y a séparation, mais jusqu'à un certain point, puisque nos églises sont possédées, sont propriétés des communes ou de l'État qui les entretiennent. Bien. Alors, pour les aumôneries, la loi de séparation prévoit que pour les personnes qui ne disposent pas de la liberté de mouvement, que ce soit les prisons, les hôpitaux ou les pensionnats des lycées de l'époque, il y a une aumônerie. Parce que c'est leur droit d'avoir accès à leur religion, s'ils le souhaitent, au ministre de leur religion. Donc c'est quand même aussi, disons, un assouplissement et une accommodation qui est tout à fait intéressant. À tel point qu'en 2005, la conférence des évêques a adopté un texte qui a été publié lors de la célébration du centenaire de la loi pour dire que la manière dont cette loi est appliquée et vécue aujourd'hui est satisfaisante.
C'est-à-dire que ce n'est pas le Pérou, si j'ose dire. Il y a en Europe tellement de modèles différents de relations Église-État. Nous avons ce modèle-là. Je crois qu'on s'y est accommodé et que ça ne soulève pas de problèmes considérables. Si vous voulez, par rapport à ce que l'Église catholique souhaite officiellement, hein, si nous nous reportons à Vatican II, per gaudium et spes, paragraphe 76, il y a deux choses. On souhaite que Église et État soient autonomes et indépendants l'un de l'autre, ça c'est acquis, et la deuxième phrase, et qu'ils puissent coopérer pour le bien commun de la société. La coopération, elle peut prendre plusieurs formes. Par exemple, en Allemagne, elle est parfaitement institutionnalisée. Les églises sont des corporations de droit public. Elles jouent le jeu avec l'État, avec les autres institutions, pour un certain nombre d'œuvres sociales et autres. La coopération, elle peut ne pas être institutionnalisée au même degré. En tout cas, en France, ça ne l'est pas. Mais elle existe. Elle existe. Au niveau des associations, etc., il y a des coopérations possibles. Mais une fois encore, c'est grâce à l'aménagement du régime de 1905 que le rapport Église-État est aujourd'hui, disons, satisfaisant.
Je vous remercie, Mgr Binrad, pour ces précisions. Je voulais dire simplement que pour avoir participé à la commission d'État sur la réforme des lois relatives à la laïcité, il est évident que la laïcité a changé complètement de sens un siècle. Qu'il y a un siècle, c'était la liberté de ne pas croire, et c'était le fait de briser le pouvoir de l'Église catholique sur la société, c'est très clair, n'est-ce pas ? C'était ça l'enjeu. Aujourd'hui, la laïcité, c'est la capacité de croire ce que l'on veut dans l'espace public, d'avoir la liberté de croire. C'est devenu ça, parce que le paysage religieux a changé, et la République a changé aussi. Ce n'est pas exactement la même... La République se définit plus du tout anti-religieusement, n'est-ce pas ? Enfin aussi, parce que de manière très simple, en France, probablement 35% des besoins de l'enseignement secondaire sont fournis par l'Église catholique. Probablement 25 à 30% de certains besoins hospitaliers, maternité, obstétrique, etc. Et vraisemblablement 50% du tissu associatif caritatif. Donc l'État, qui a des difficultés pour finir ses mois, je crois, n'a aucune envie de remplacer tout ça par ses propres services. Il y a là aussi une victoire du mouvement associatif sur le mouvement étatique, je crois, qui est important. Hein. Voilà. Mais on a nos amis, les évêques, qui sont venus de diverses régions de France et même d'une France lointaine, celle des dom-toms. On a aussi les gens qui sont tous là. Je crois que c'est peut-être aussi le moment, mais nos amis Jean-Luc, Sophie reprendront la parole, le père Capres aussi. Mais s'il y a des questions sur ces questions immédiatement de la salle, je crois que ça peut être le moment. Monseigneur Béranger. Juste si vous pouvez vous annoncer.
Donc, Olivier de Béranger, évêque de Saint-Denis, je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre prise de parole au sujet de la crise sociale. Ma question porte de nouveau sur la conscience et l'interférence avec l'annonce de l'Évangile. Je relisais il n'y a pas très longtemps le grand livre d'un théologien qui était anglican, qui est devenu catholique en 1845, Jonathan Newman, et dans son apologia pro vita sua, lorsqu'il a tracé l'histoire de ses opinions religieuses et qu'il est devenu catholique, il dit maintenant mes opinions sont parfaitement en paix. Par contre, il me reste à témoigner pour la conscience. Et il rappelle que c'est le dictamen de la conscience qui peut être pour l'ensemble des citoyens britanniques, parce qu'il était britannique, finalement le fanal, c'est le mot qu'il emploie, le fanal, l'étendard de l'Évangile. Et pour ma part, comme évêque, j'ai souvent éprouvé que, de fait, dans notre société sécularisée, lorsque nous prenons la parole, comme vous l'avez fait dans votre ouvrage, au nom de la conscience, finalement, nous opérons ce que nous appelons aujourd'hui la première évangélisation. Nous rappelons que l'homme a une dignité qui lui vient qu'il est une créature. Est-ce que vous trouvez ça pareil?
Êtes-vous d'accord?
Я не очень увидел здесь вопрос, а здесь очень важный для меня рассказ.
C'est plus un récit qui est pour moi très important, plutôt qu'une question.
Но я хотел бы сказать о том, что несмотря на то, что мы находимся в той ситуации, когда еще нужно многое сделать в плане развития отношений церкви и государства,
bien des choses restent à faire pour avoir pour que les relations entre l'Église et l'État soient telles que nous les souhaitons.
Мы считаем, что очень важно устанавливать систему диалога с властью, с государством и систему сотрудничества.
Il est plus important d'installer, de mettre en place un dialogue entre l'Église et l'État, de mettre en place une coopération.
В основах социальной концепции мы говорим, в отношении каких вопросов возможно сотрудничество с государством, а в отношении которых каких невозможно.
Et nous établissons dans la doctrine sociale un inventaire des questions sur lesquelles une coopération avec l'État est possible et de celles
И вот оставаясь в правовом поле, в поле нашей Конституции, в поле наших законов, мы тем не менее пытаемся структурировать этот диалог с властью.
Nous essayons de conférer une forme, de conférer une structure à notre dialogue avec le pouvoir politique.
Мы стараемся подписывать соглашения с различными министерствами.
Nous essayons de signer des accords avec divers ministères.
В рамках которых развиваем сотрудничество.
Des accords qui permettent précisément de coopérer.
Почему это важно? Потому что часто очень много зависит от личности.
Et c'est une chose très importante. Souvent, cela dépend de sur quel interlocuteur nous tombons.
Можно достичь высокого уровня сотрудничества и диалога с каким-то местным губернатором или с каким-то министром, меняются люди и меняется политика, потому что нету законов.
Il est parfois facile de dialoguer avec un gouverneur de région, tel ou tel ministre, puis les personnalités changent, il y a de nouvelles nominations, et tout est à recommencer.
И поэтому мы подписываем соглашения между епархиями и местной властью.
Des accords sont signés dont sont partis le diocèse et l'autorité locale.
Маленькие такие конкордаты локальные.
Ce sont des petits concordats sur le terrain.
Там, где это возможно.
Là où cela est possible.
Это не везде возможно.
Et cela est
loin. Но тем не менее, я считаю, положительно оцениваю сейчас уровень диалога церкви и государства.
Cependant, j'ai vu une analyse positive du dialogue entre l'Église et l'État.
Вот я говорил о том, что невозможно иметь капелланов в армии, капелланов в тюрьмах.
Je disais qu'il est impossible d'avoir des aumôniers dans les unités militaires et les prisons.
Но мы договариваемся с какими-то воинскими частями.
Mais nous parvenons à nous entendre avec telle ou telle unité militaire.
О том, чтобы в какой-то день местный священник, настоятель прихода, пришел в воинское соединение.
Pour qu'une date fixée. Le prêtre de la paroisse locale se rend dans cette unité militaire.
Или в тюрьму.
Ou dans un lieu de privation de liberté.
Мы надеемся, что нам удастся изменить ситуацию, и будут капелланы и в тюрьмах, и в армии, пока их нет, но пасторское кормление осуществляется.
Il y a une action pastorale dans le monde carcéral, dans les unités militaires. Il n'y a pas encore d'aumônier, nous espérons qu'il y en aura.
Merci beaucoup. Monsieur, vous aviez dans l'ordre et là ensuite, vous êtes là avec nous. Après, dans l'ordre, on essaie de faire des choses dans l'ordre.
Oui, bonjour. Je vais poser ma question en français pour gagner du temps.
Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît.
Oui, je vous présente. Georges Rodenschild, mon surnom sur l'internet c'est Guillaume. Je suis paroissien d'une petite paroisse orthodoxe de la banlieue de Paris, du 7 de Corsoum. Vous avez dit, Monseigneur, que raconter les circonstances de l'écriture du livre, la doctrine sociale, un livre magnifique que je ne peux pas trouver, qui s'est passé dans les circonstances de la révolution de 1991, enfin les événements de 1991. Le concile de 1991 1917 s'est aussi déroulé dans des circonstances très difficiles de celle de 1917. La seule petite différence, c'est que le Conseil est venu comme un aboutissement d'une préparation, alors qu'en fait, vraiment, vous avez commencé à préparer la sécurité sociale à partir de ce moment-là. Alors, ma première question, faut-il des événements tumultueux en Russie pour produire de tels documents? La deuxième question, c'est très rapide. J'ai lu aussi votre livre sur l'Église et la tradition, et dans lequel vous défendez l'emploi du slavon. Alors, l'Église russe est la seule à pratiquer le slavon. Si la doctrine sociale est une façon d'aller dans le monde, est-ce qu'il ne serait pas bon aussi d'introduire le russe? Parce que le slavon sert de référent qui est important de maintenir, mais le russe permettrait aux gens de mieux comprendre, qui serait une deuxième marque de fait que l'Église est dans ce monde et non pas de ce monde. C'est pour ça que j'aime bien que M. Polissimo dise que pas l'Église de aussi, mais l'Église russe.
Bravo.
je crois avoir dit l'Église de Russie. Parfois, ça m'a échappé. Ou l'Église orthodoxe en Russie. Donc, Monseigneur, le slavon, dont je vous précise qu'il est quand même une langue liturgique pour d'autres églises que l'Église orthodoxe de Russie, l'Église de Serbie, l'Église de Bulgarie, etc. N'est-ce pas ? Mais je donne la parole à Monseigneur.
Ну, мы, конечно, используем национальные языки, и во Франции в том числе.
Nous avons bien sûr recours aux langues nationales, et ceci est compris en France.
Поэтому нету никаких доктринальных запрещений, чтобы использовать современный язык.
Il n'existe aucun interdit qui ne permette pas d'avoir recours aux langues nationales.
Есть исключительно пасторские соображения.
Ce ne sont que des considérations d'ordre pastoral qui président à ces choix.
На сегодня для абсолютного большинства членов нашей церкви сохранение славянского языка связывается с сохранением их собственной религиозной идентичности.
Pour la majorité absolue des membres de notre église, le maintien du slavon équivaut au maintien de leur identité religieuse.
Люди рассуждают примерно так.
Les gens se disent plus ou moins.
Сумасшедший мир.
Nous sommes dans un monde dément.
Все меняется.
Tout change autour de nous.
Ну, ради Бога, хоть в церкви не делайте этого.
Mais que l'Église, au moins, reste dans la continuité.
Ну, оставьте нас в покое.
Laissez-nous en paix.
Должно быть какое-то пространство для духовного спокойствия и мира. Без эксперимента.
Il faut bien qu'il y ait un endroit pour que l'âme y retrouve la paix sans qu'il s'y passe des expériences mutilantes.
И мы понимаем, что это очень важное требование.
Et nous sommes conscients de l'importance de ce souhait.
С другой стороны, есть миссионерские требования.
Il y a d'autre part les exigences de la mission.
В отношении молодежи.
Je pense aux jeunes en particulier.
Новых людей, которые приходят в церковь.
Je pense aux nouveaux baptisés.
Которые культурно никак не связаны с со славянской традицией.
À ceux qui ne disposent pas de la tradition du slavon.
Вот теперь для таких людей мы сейчас практикуем так называемые миссионерские литургии.
Et pour ces groupes de croyants, nous avons recours aux liturgies de mission.
Где читаем Священное Писание, конечно, на русском языке.
Les écritures sont lues, évidemment, en russe.
Где вводим объяснение славянских текстов во время богослужения.
Les textes en slavon sont en cours d'office explicité.
И для в определенных аудиториях это очень полезно.
Et cela est très utile pour des groupes bien déterminés de croyants.
А теперь мне позвольте сказать что-то совершенно неправильное для Франции, для католического контекста.
Mais permettez-moi d'ajouter quelques mots qui vont tout à fait à rebrousse-poil de la conscience française et catholique.
Один вопрос.
Une question.
Переход на разговорный язык в результате реформы Второго Ватиканского собора увеличил количество верующих, которые посещают храмы во Франции, или нет?
Est-ce que la transition vers la langue vernaculaire à la suite de Vatican II a de beaucoup multiplié le contingent des paroisses françaises?
C'est méchant, votre question.
Это очень серьезная тема. Это очень серьезный вопрос.
C'est un sujet qui ne prête pas à plaisanterie.
Когда я смотрю на тысячи мусульман,
lorsque je vois les masses musulmanes,
которые молятся на арабском языке, не понимая ни одного слова,
qui font leur prière en arabe sans en comprendre ni le début ni la fin.
Реально падают на колени, лежат там.
Qui font des génuflexions.
Горячие религиозные чувства.
Qui sont dans un état d'ardeur religieuse.
Которые никак не связаны с текстом.
Et ça n'a rien à voir avec les textes.
То что это такое?
Comment le comprendre?
Что такое молитва?
Qu'est-ce que la prière?
Это что, рациональный процесс?
C'est quelque chose de cérébral.
Вам нужно иметь текст для того, чтобы умнее стать во время молитвы.
Est-ce que le texte de la prière vous rend plus intelligent?
Или что-то, что такое новое узнать?
Ou bien vous apprenez des choses nouvelles?
Для этого интернет существует.
Il y a internet pour ça.
Молитва это больше, чем рациональный процесс.
La prière dépasse le cadre du rationnel.
Поэтому не исключая важности использования богослужения как миссионерского фактора.
Aussi, sans exclure l'importance des offices et de la liturgie en tant que paramètre de l'action missionnaire.
Мы понимаем, что механический перевод литургии на современный русский язык не увеличит количество верующих.
Nous sommes tout à fait conscients du fait que la traduction mot à mot des textes liturgiques vers le russe moderne ne va pas conduire à une augmentation du contingent de Novaros.
И последнее.
Et encore une chose.
Я только что недавно приехал с Афона.
Je viens de séjourner au Mont Athos.
Богослужение длится 10 часов.
Les offices durent 10 heures d'affilée.
Я знаю славянский язык.
Et je manie très bien le slavon.
Вы что думаете, я слежу за словами в течение 10 часов?
Je suis le texte de l'office 10 heures de suite.
Вы входите в совершенно особое состояние.
Vous êtes immergé dans une sorte d'état très particulier.
Это длинная молитва, как река, как поток.
Cette longue prière est comme un fleuve qui vous envoie.
Вы отдаетесь этому потоку, он вас несет.
Et vous laissez porter par ce
И для вас безразлично в этот момент времени вы понимаете, что там читает гнусавым голосом монах, или не понимаете?
Vous êtes tout à fait indifférent. Si vous comprenez ou non le texte que déclame le moine d'une voix nasillarde.
Вы молитесь не головой, вы молитесь сердцем.
Votre prière n'est pas cérébrale, elle se situe dans votre cœur.
Преподобный Серафим Саровский 1000 дней и ночей стоял на камне и молился.
Saint Séraphin de Sarov est resté 1000 jours et 1000 nuits d'affilée. À genoux sur une pierre à prier.
Я дружу со спортсменами в России.
J'ai beaucoup d'amis sportifs.
Сам спортом занимался всю жизнь. И они меня приглашают, особенно перед Олимпийскими играми. И выступая перед нашей олимпийской командой, я сказал, вы такие все сильные, будущие олимпийские чемпионы, ответьте мне на один вопрос. Кто-нибудь из вас, мог бы не 1000 дней, 10 дней простоять на камне и молиться?
Je ne parle pas de 1000 jours et de 1000 nuits, mais ne fût-ce que de 10 jours. Est-ce que l'un de vous est susceptible de rester 10 jours sur une pierre à prier?
Est-ce que нет?
Certainement pas.
А убогий старец стоял и молился.
Alors qu'un pauvre vieillard l'a fait sans difficulté.
Молитва – это не рациональный поток, это не поток сознания.
La prière n'est pas ce qui s'appelle un flux de conscience, c'est quelque chose d'extra-cérébral.
И в этом смысле вопрос языка важный, с миссионерской точки зрения, но вторичный с точки зрения глубины религиозного переживания.
Du point de vue missionnaire, la langue est un paramètre important, elle devient secondaire dans ce qu'ils appellent le vécu religieux.
Je ne sais pas si ce sont des partisans du slavon ou du latin qui ont applaudi, mais les lois de l'hospitalité vont demander quand même au père Calvez de défendre un peu cette nouvelle messe et ce passage au français dont il a été un des témoins, ce n'est un des acteurs.
Mais je donne volontiers mon sentiment. Ici, il y a des évêques qui ont une pratique pastorale bien plus large que la mienne. Tout de même, voilà, Moi, je ne suis pas du tout hostile aux Slavons. J'ai rencontré quand même des jeunes Russes qui avaient envie du russe, hein, et qui venaient peu orthodoxes dans notre petite chapelle catholique des jésuites à Moscou, tout en restant tout à fait orthodoxes. Hein, ils venaient là parce qu'ils avaient envie de comprendre et ça leur... Et ils assistaient à la messe latine en russe. Oui, je dis bien la messe latine, non, je veux dire de rite latin, c'est-à-dire celle que les dimanches. Pardon ?
Ça, c'est compliqué, le russe.
Non, non, mais ça n'était pas la liturgie orthodoxe, je veux dire, c'était la liturgie latine, catholique, bon, puisque nous avons aussi des liturgies orientales, c'est pour ça que je précise. Mais bon, donc j'ai vu des choses comme ça. Qui, alors, pour moi, bon, non, mais je comprends très bien qu'avec beaucoup de population, non seulement ça n'a pas beaucoup d'importance, mais qu'il faut sans doute se garder d'aller trop vite, etc. Je le comprends tout à fait. Simplement, je crois que l'argument que le changement qui a été opéré par les catholiques après le concile de Vatican II n'a pas entraîné un remplissage des églises, c'est un argument qui ne me convainc pas beaucoup. Et je veux dire, je pense qu'il y avait 36 autres raisons pour lesquelles, dans cette époque troublée, difficile, il y avait un détachement d'une vieille religion sociologique. Bon. Et donc, ça ne me convainc pas beaucoup. En sens inverse, je crois que dans nos populations catholiques d'Occident en particulier, c'est les plus nombreuses tout de même, dans ces populations-là, au moment où se généralisait l'enseignement secondaire, et même beaucoup plus, il y avait un besoin de comprendre qui n'aurait pas été satisfait dans le plus grand nombre de la population si nous n'avions pas effectué ce changement. Je pense. Alors, bien sûr, il reste une difficulté, c'est que traduire mot à mot, effectivement, c'est insuffisant et sans doute assez souvent déplorable.
Il faut une traduction dynamique.
Et nous aurions encore beaucoup de progrès à faire, c'est ma conviction, dans nos traductions ou nos adaptations en langue moderne. Et,
voilà. Merci Père. Je suis désolé. Un mot, attendez. Un mot. Alors j'explique là, parce que là, on ne va pas y arriver. Il a droit à 20 secondes. Après, nous avons votre question, Père, et la question de Mgr Lacrampe que je mets ensemble. Mgr Kirill répond, et c'est fini parce que nous sommes en train de faire un squat. La police va arriver pour nous mettre dehors, puisque je crois que nous dépassons l'heure.
Bon. Moi, j'ai... Moi, je veux dire que je suis très impressionné par ce que vous avez écrit sur la prière. Moi, j'ai lu la Philokalie, Staret, tout ça. Ça me touche beaucoup, ça me plaît beaucoup. Ça me va. Mais le problème, c'est que quand vous prenez l'exemple de l'islam, c'est justement ce qu'avait dit le pape, c'est-à-dire si on ne se met que dans l'émotion, que dans le ressenti, et qu'on ne lit pas son ressenti avec l'intellect, avec l'intelligence, avec la rationalité, on peut arriver à toutes les dérives religieuses possibles. Donc le lien entre l'intellect, le rationnel et l'émotionnel de la prière me semble indispensable. Donc d'où l'usage dans les langues vernaculaires.
Merci. Merci Jean-Luc. Je crois que c'était
very,
pas...
Very short reply. Oui. And maybe finish.
D'accord, vous parlerez ensuite.
Yes, I'm a Sagwasi. И благодарю Папу Бенедикта XVI, что он благословил старый обряд.
Alors, juste pour que ça soit égalitaire.
Jean-Paul Durand, dominicain. Éminence, si je comprends bien ce que j'ai pu écouter, si je comprends bien ce que j'ai pu écouter de votre intervention, vous avez témoigné qu'une église peut aimer et être fière de son peuple sans être forcément un nationalisme religieux. Et j'ai cru comprendre aussi que ce dialogue avec l'État auquel vous aspirez n'est pas une aspiration à ce que l'État assume les tâches qui relèvent de cette Église, n'est-ce pas?
Avant que vous ne répondiez, Monseigneur, Monseigneur Lacran, peut-être que les questions seront liées, vous répondrez à l'une, à l'autre ou aux deux.
À nouveau, toute ma gratitude pour votre présence et l'échange que nous avons cet après-midi. Je suis archevêque à Besançon, nous accueillons des étudiants russes, orthodoxes, qui viennent au centre linguistique appliqué pour se perfectionner en français. Et nous avons le plaisir de nous retrouver au mois de juillet, août, septembre. Et donc c'est un lien aussi institutionnel et important. Dans la nature, dans la mission de l'Église, il y a trois fonctions, trois tâches que nous développons dans l'Église catholique. L'annonce de l'Évangile, célébrer le salut en Jésus-Christ et le service des hommes. Trois fonctions, trois tâches qui s'articulent, qui s'harmonisent, qui se lient les unes aux autres. Concernant le service de la vie des hommes, il nous faut fonder cela dans la foi, dans la pensée sociale de l'Église, et il y a un effort que entrepris, je crois, dans nos églises ces dernières années, initiant des années de la charité, de la solidarité, de la fraternité. On a des centres, des lieux, comme ici, rue de Sèvres, parmi d'autres, qui aident à entrer dans cette intelligence. Vous-même, à Moscou, quelles dispositions vous prenez dans vos centres intellectuels pour entrer dans cette intelligence de la foi, dans cette formation à la pensée sociale de l'Église, parce qu'on constate, nous, aussi cette distanciation entre la pensée sociale de l'Église et puis la pratique. Donc il nous faut travailler à cette formation de bien des manières.
Я благодарю вас за этот вопрос. Одна из причин Октябрьской революции заключалась в том, что в России, в царской России, произошел разрыв между интеллигенцией и церковью.
L'une des raisons qui ont rendu possible le putsch bolchevique d'octobre est le divorce qui s'était fait entre l'Église et l'intelligentsia.
Это произошло именно потому, что церковь была государственной.
Et cela a pu devenir possible puisque l'Église était étatisée.
Во главе церкви был царь.
Le chef de l'Église était l'empereur.
Вся кадровая политика назначения епископов осуществлялась светской властью.
C'est le pouvoir laïque qui, si je puis dire, gérait les ressources humaines.
И церковь не была способна к пророческому служению в своем собственном обществе.
Et l'Église était dans l'incapacité d'assumer ses fonctions pastorales dans la société.
Какое пророческое служение, какая критика власти, когда во главе церкви царь?
De quelle action pastorale, de quel prophétisme pouvons-nous parler lorsque c'est le tsar qui est à la tête de l'Église?
Не было социальной доктрины, не было ни одного заявления церковного о ситуации в стране, которая бурлила накануне революции.
Il n'y avait aucune, il n'y avait pas la moindre doctrine sociale, il n'y avait aucune déclaration officielle de l'Église, ceci dans un pays qui, à la veille de la Révolution, se trouvait en pleine ébullition.
В семинариях были демонстрации, протесты, забастовки. В одной семинарии ректора убили, церковь молчит.
Il y avait des manifestations et des mutineries dans les séminaires. Le recteur de l'un des séminaires a été assassiné par les étudiants mutins alors que l'Église a gardé le silence.
Поэтому, когда нам говорят, не хотите ли стать государственной церковью, мы говорим спасибо, мы уже знаем, что это.
Et lorsqu'on nous dit, souhaitez-vous devenir une église d'État, nous répondons, merci, nous avons essayé.
Одна из самых главных наших задач сегодня – это восстановление моста между церковью и интеллигенцией.
L'un de nos principaux objectifs est aujourd'hui de reconstruire, de rétablir le pont susceptible de relier l'Église
Нам удалось многое сделать за эти 17 лет. Восстановлены отношения между церковью и наукой.
Les bonnes relations sont rétablies, pour dire, entre l'Église et la science.
Во многих церковных проектах участвуют лучшие ученые страны.
Les meilleurs chercheurs du pays participent à la mise en œuvre de nombreux projets mis en place par l'Église.
У нас взаимодействие с Академией наук и со многими университетами.
Nous avons d'excellentes relations de travail avec l'Académie des sciences et de nombreuses universités.
Установился замечательный диалог и сотрудничество с русскими писателями.
Nous avons un dialogue tout à fait remarquable avec de nombreux hommes de lettres.
Мы вместе издаем журналы, книги.
Nous publions de concerts, des ouvrages, des revues.
И вот это, я считаю, очень важная сегодня работа церкви.
Et c'est une orientation essentielle pour l'Église moderne.
Я не могу сказать, что достигнуты результаты, лучше которых не может быть. Мы еще должны куда-то идти вперед, у нас есть пространство.
Il reste encore bien des choses à faire.
Но я могу просто свидетельствовать, что за эти годы чудо произошло.
Mais je peux attester de la réalité du miracle qui s'est produit ces dernières années.
Сегодня мы не чувствуем разрыва между интеллигенцией и церковью.
Nous ne sentons plus la réalité de ce divorce passé entre l'Église et l'intelligentsia.
Абсолютное большинство кандидатов в священники это те, кто кончили университеты и пришли в семинарию.
La grande majorité de ceux qui souhaitent devenir prêtres sont équipés de diplômes universitaires.
На вопрос социологических исследований, считаете ли вы, что вы член церкви, имеете ли вы связь с православной церковью?
Il y a eu des études sociologiques, des enquêtes sociologiques, dont l'une des questions était est-ce que vous estimez être membre de l'Église et avoir des attaches?
64% говорят да.
Les réponses affirmatives, ce chiffre à 64%.
Но это не самый лучший для нас процент.
Et ce n'est pas pour nous un résultat optimal.
Потому что 80% крестятся.
Puisque 80% des nouveau-nés sont baptisés.
Где эти 16%?
Où sont les 16% qui restent?
Есть еще над чем работать.
Nous avons encore de quoi faire.
Благодарю вас за внимание.
Pour clore cette rencontre, je voudrais remercier encore les pères dominicains du Sèvres pour cette belle édition, les pères jésuites du Centre Sèvres pour leur hospitalité, remercier leurs éminences, Monseigneur Minrat, et vous remercier, Monseigneur, et peut-être dire simplement, avec votre permission, qu'il faut aller en Russie, voir ce qui s'y passe, pour en finir peut-être justement avec les mauvais mythes.